Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Donc, après avoir vu la semaine dernière le service à plusieurs dimensions et comment peut-on servir un service parfait dans toutes ces dimensions, donc les dimensions psychologiques, morales, mentales et physiques, aujourd'hui on va voir, bien, on va répondre à une deuxième question qui est plutôt complémentaire à ce qu'on a déjà vu, et c'est la question de comment prêcher. Évidemment, c'est la question fondamentale qui se pose dans notre service, puisque notre service est par définition un service d'un prêcheur. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes étapes ou bien les différents points qu'il faut prendre en considération en prêchant. Ok ? Donc la question principale donc, qui se pose dès le début, c'est qu'on sait tous que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comme Saint Paul le dit dans son épître à Timothée. Mais évidemment, afin de réaliser cet objectif pour que tout le monde soit sauvé, il faut d'abord qu'il y ait des personnes qui servent la parole de Dieu. Et donc, on voit dans son épître aux Romains, quand Saint Paul parle de l'importance d'un prêcheur pour servir Dieu, c'est que comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche. Donc ça montre dans quelle mesure le point de départ, c'est la présence d'un prêcheur qui va transmettre la parole de Dieu. Ok ? C'est pour cela que notre mission principale, elle peut se résumer en deux points. Le premier point, c'est servir, ce qu'on a vu la semaine dernière, donc dans toutes les dimensions du service. Et deuxièmement, prêcher et témoigner de la parole de Dieu. Ainsi, les deux questions qu'on va se poser tout au long de cette présentation, plutôt la deuxième question, c'est que comment servir ? Ça, on l'a déjà vu, comme je l'ai dit tout au début. Et la deuxième question donc à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment prêcher et comment transmettre le message de Dieu. Donc on va voir ça en trois étapes. On va voir d'abord le Christ serviteur ou bien le Christ prêcheur. Puis on va voir les différentes étapes pour prêcher et on va conclure après. Pour commencer avec le Christ prêcheur, on sait tous que, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, c'est que notre objectif ultime, c'est suivre les traces du Seigneur dans tout ce qu'il a fait. Donc, il a tant aimé les gens qu'il s'est crucifié pour eux. Donc, nous, même si on ne va pas se crucifier, on ne va pas être crucifié pour les autres, mais on va les servir à un tel point de, comment on va dire, d'un amour absolu. Et donc, comme le Seigneur, il a souffert pour nous, afin de nous servir ou bien de nous sauver, nous aussi, on doit souffrir pour les autres, pour les sauver. Et c'est ce qu'on voit dans l'épître de Saint-Pierre, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, suivre les traces du Seigneur en quoi ? Suivre les traces du Seigneur dans la manière avec laquelle il a servi les gens, dans la manière avec laquelle il s'est donné complètement par amour aux autres, afin donc de leur transmettre le message d'amour et de salut. C'est pour cela que, donc pour résumer, on doit souffrir pour les autres comme le Christ a souffert pour nous. Et ça montre que dans quelle mesure notre service doit être mêlé, en un certain point, à une certaine souffrance et un déploiement pour les autres. On passe maintenant aux étapes de comment prêcher. Donc il y a cette étape principale. Évidemment, premier point, c'est avoir un contact amical, puis avoir une base commune avec notre interlocuteur pour que l'on puisse discuter. Troisièmement, susciter l'intérêt de cet interlocuteur pour qu'il soit intéressé par ce qu'on va dire, sinon il va donner aucune importance à ça. Quatrièmement, il faut préparer une discussion riche avec lui, et par riche, je veux dire une discussion pleine d'informations, de, de nos rites, de nos dogmes en termes de l'Église copte orthodoxe. Cinquièmement, malgré une discussion riche, il ne faut pas aller trop loin, mais il faut toujours faire attention au fait que la discussion soit simple et accessible par lui. Sixièmement, avant donc de terminer la discussion, il faut dégager les points essentiels pour mettre l'accent sur ces points. Et finalement, rendre la réalité explicite, c'est-à-dire dégager le point le plus important et le dire de manière explicite à la personne qu'on prêche. Donc on va détailler toutes ces étapes plus tard, mais c'est juste pour vous donner donc le fil de la présentation. Donc premier point, avoir un contact amical. Ça évidemment, c'est un point très important dans notre service, puisqu'on ne va jamais servir que s'il y a une certaine amitié ou une certaine relation d'amour avec la personne qu'on doit prêcher. Parce que si cette personne ne trouve pas qu'on est aimable ou bien qu'on est venu exprès pour la servir, elle ne sera jamais incitée à écouter nos paroles. C'est pour cela qu'il faut jamais, avant de commencer donc à parler de la religion ou bien de nos croyances chrétiennes, il faut commencer à parler de toute autre chose qui est liée à la vie de tout le monde. Et on voit ça très clair dans ce qu'a fait le Seigneur avec la Samaritaine. Quand il a parlé avec elle, il ne lui a pas dit que je suis le Messie que vous attendiez. Il ne lui a pas dit que je vais te transmettre le message de salut. Mais il a commencé sa conversation avec elle en lui demandant donc de lui donner à boire. C'est un bien commun à tout le monde. Tout le monde peut boire, tout le monde veut boire, donc elle ne va jamais bloquer cette conversation dès le début. Ok ? Donc premier point, c'est ne jamais commencer à parler de la religion. Deuxième point, et ça aussi on le voit très clair dans l'exemple du Christ avec la Samaritaine, c'est il faut montrer dans quelle mesure le prêcheur, donc nous, on a besoin d'un certain service de la part de la personne prêchée. C'est ce qu'a fait le Seigneur aussi. Évidemment, le Seigneur aurait pu transformer n'importe quelle pierre en une source d'eau, mais lui, il a demandé de l'eau auprès de la Samaritaine. Pourquoi ? Pour donner, en quelque sorte, un certain sentiment à la Samaritaine qu'elle peut faire quelque chose pour lui, même s'il n'a besoin de rien. Mais c'est pour lui montrer dans quelle mesure elle peut satisfaire un de ses besoins, on va dire, et dans quelle mesure elle va faire preuve de son existence. Troisième point dans la formule donc d'avoir un contact amical avec la personne prêchée, c'est qu'il faut donc prendre l'initiative. Et c'est ça ce qu'a fait le Seigneur avec nous déjà, c'est que la meilleure initiative de toute l'histoire chrétienne, c'est l'initiative que le Fils a faite en s'incarnant sur terre. Donc, dans quel but ? Dans le but de nous sauver. Pareil, nous, il faut que nous prenions donc l'initiative à l'égard de la personne qu'on va prêcher. Et on voit ça que le Christ, évidemment, même mis à part l'exemple de l'incarnation, il prenait toujours l'initiative vis-à-vis de ses disciples, vis-à-vis des apôtres, vis-à-vis des pêcheurs, vis-à-vis des femmes faibles dans la société. Et là, on prend juste l'exemple de ce qu'a fait le Seigneur avec Saint Matthieu, ou bien Lévi, qui était un collecteur d'impôts. Donc après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva, il le suivit. Donc, quel est l'intérêt de ce verset ? C'est de montrer dans quelle mesure le Seigneur, lui, il a pris l'initiative envers une personne pécheresse, qui était Saint Matthieu. Cette personne pécheresse refusée de la part de la société, puisqu'elle est perçue comme étant un collecteur d'impôts. Mais le Seigneur, malgré tout, il a pris l'initiative à l'égard de cette personne. Ok ? Quatrièmement, il faut donc développer aussi une relation amicale afin de surmonter toute barrière psychologique. Et aussi, on voit ça très clair dans ce qu'a fait le Seigneur avec tous les pécheurs, puisqu'on qualifiait le Seigneur par l'homme qui parlait avec les pécheurs et avec les collecteurs d'impôts. Et ça, on le voit dans l'évangile de Saint-Luc. Donc, Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, pour résumer donc les quatre premiers points, donc comment développer une relation amicale avec la personne qu'on prêche. Un, c'est qu'il faut prendre l'initiative, comme ce qu'a fait le Seigneur avec Lévi ou bien Saint Matthieu. Deux, c'est qu'il ne faut jamais commencer à parler de la religion, mais parler des intérêts généraux qui peuvent intéresser tout le monde. Trois, montrer que le prêcheur a besoin d'un certain service de la part de la personne prêchée. Et quatre, c'est qu'il faut donc développer une certaine relation amicale pour, comme on le dit en anglais, to break the ice entre le prêcheur et la personne prêchée. Ok ? Et donc là, on va voir un extrait de l'évangile selon Saint Jean, qui porte donc sur le passage de la Samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, tout ça, c'était juste pour résumer les points qu'on a traités dans le premier slide. On a vu donc comment le Seigneur, dans sept versets, il n'a rien dit que « donnez-moi à boire ». Et même quand il a commencé à parler, il n'a pas parlé de la religion, de l'histoire juive, de l'histoire des conflits entre la Samarie et Judas. C'était juste une question pour attirer son attention et pour lui montrer qu'il a besoin de quelque chose de sa part. On va passer donc, après avoir développé un certain contact amical avec la personne qu'on prêche, il faut avoir une base commune. Et c'est quoi une base commune? C'est qu'il faut trouver les intérêts communs entre le prêcheur et la personne prêchée pour que la personne prêchée, ressente pour qu'elle se sente à l'aise vis-à-vis du prêcheur. Et c'est pour cela que le Seigneur, avec la Samaritaine, il a cherché tous les points communs qui peuvent le rapprocher de la femme. Donc il a parlé de l'eau, elle venait puiser de l'eau, lui il lui a demandé de l'eau. Il a parlé d'un puits, un puits c'est quelque chose d'important pour elle. Il a parlé de notre père Jacob, c'est commun aussi bien au royaume de Juda qu'au royaume d'Israël au nord. Pourquoi? Parce que c'était avant la rupture du royaume de Salomon en deux royaumes. Parce que vous savez très bien que le royaume de Salomon a été divisé en deux parties. Au nord, le royaume d'Israël avec les 10 tribus et au sud, le royaume de Juda avec les 2 tribus qui avaient pour capitale Jérusalem. Donc, il a cherché tous les points communs qui peuvent le rapprocher de cette femme et tout cela afin de surmonter toutes les barrières qui peuvent le séparer de cette femme. Et c'est pour cela que malgré tout cela, la femme lui a posé aussi une question. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire et moi qui suis une femme samaritaine? Donc là, on voit qu'il y a 3 différences fondamentales entre les deux. Un, c'est que lui c'est un homme, elle c'est une femme, donc ça, déjà il y a une barrière liée au genre. Deux, il y a une barrière liée, des conflits politiques entre la Samarie et Judas. Trois, c'est que elle c'est une femme pécheresse, lui c'est un professeur, quelqu'un qui professe la loi de l'Ancien Testament. Donc tous ces points concourent ensemble pour montrer dans quelle mesure c'était hors de question que la Samaritaine soit convaincue par quoi que ce soit. C'est pour cela que le Seigneur, il a essayé de mettre l'accent sur ces trois points, donc de l'eau, du puits, de notre père Jacob, pour lui montrer que ce qui compte au départ, c'est tout ce qui est commun entre nous. Et après, on va voir quelles sont les différences. Donc, là, un point très important, et on va voir ça dans, quasiment dans toutes les étapes, c'est qu'il faut que la personne qui prêche, ou bien le prêcheur, qu'il essaye de faire de son maximum, et on va voir que la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit, vont toujours accompagner le prêcheur dans toutes ces étapes. Et là, on va voir plus tard, vers la fin, des versets qui prouvent ça. Ok ? On passe après au point suivant, c'est qu'il est important d'être un bon auditeur, ou bien en anglais, a good listener. C'est-à-dire, la Samaritaine, comme elle était une femme pécheresse, elle était refusée par la société, elle essayait de chercher quelqu'un, au moins pour l'entendre, parce que comme elle est refusée, comme elle est une femme pécheresse, elle avait une mauvaise réputation auprès de tous ses voisins dans la ville. Donc, ça allait lui, on va dire, la rendre plus à l'aise si elle parlait à quelqu'un. Et ça, ce qu'a fait le Seigneur, c'est qu'il lui a fait preuve qu'il est prêt à l'écouter et à l'entendre, même si elle est refusée, même si elle est pécheresse. Donc les gens aiment parler d'eux-mêmes, et si on sait les écouter, ils auront confiance en nous. Et ça, c'était le deuxième point. Non seulement la personne va se sentir plus à l'aise, mais elle va avoir confiance en nous. Pourquoi ? Parce qu'elle va se dire que moi, j'ai commencé à parler à cet homme, ou bien à ce prêcheur. Il m'a accordé une certaine partie de son temps juste pour m'écouter. Et donc, ça va donner beaucoup plus de confiance entre les deux. Et si vous vous rappelez, on a vu que la semaine dernière, que le fait d'accorder un certain temps à quelqu'un, c'est un geste d'amour, ou bien c'est un certain langage d'amour. Deuxième point, c'est qu'il faut être intelligent, donc en posant les questions qui incitent les gens à réfléchir. Et comme le dit Abou Nadaou, donc il ne faut jamais poser des questions dont les réponses sont oui ou non. Mais il faut toujours poser des questions qui incitent à réfléchir, qui vont, on va dire, déclencher un débat entre le prêcheur et la personne prêchée. Parce que si ça va déboucher sur une discussion close, donc il n'y aura aucune opportunité pour convaincre la personne prêchée. C'est pour cela qu'il faut toujours être intelligent en choisissant les questions que l'on pose. Et c'est pour ça que Jésus donc lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Évidemment, le Seigneur, il est Dieu et il est bon, mais il a posé cette question, donc on voit ça dans le livre de Luc, quand il a posé cette question à l'un des Juifs, en lui disant donc: pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul bon qui est Dieu. Mais l'objectif de cette question était d'inciter donc son interlocuteur à réfléchir et on va dire, à penser dans quelle mesure le Seigneur qui est devant moi, qui est là, est le vrai Dieu. Et évidemment, le deuxième objectif de tout cela, après la réflexion, c'est de délivrer gentiment le message. Parce que si on va délivrer de manière directe le message, donc ce message n'aura aucune valeur. Pourquoi ? Parce que le message est donné directement, sans aucun effort de la part de notre interlocuteur. Mais si on incite cette personne à réfléchir, à échanger avec nous, ça va nous permettre de délivrer le message, mais de manière, on va dire, gentille. Pourquoi ? Parce que ça ne sera pas une relation de quelqu'un qui enseigne et de quelqu'un qui est enseigné. Mais ça sera plutôt, on va dire, un échange de paroles. Okay, vous voyez donc la différence. Donc peut-être, je vais reprendre cette différence, c'est que l'objectif de poser des questions qui incitent à la réflexion, c'est que ça ne soit pas une relation d'un enseignant vis-à-vis d'une personne enseignée, mais plutôt d'un échange amical entre deux personnes. Et cet échange va nous permettre d'enseigner, mais pas de manière directe. Ok ? Donc, après avoir vu les deux premières étapes, je vais récapituler. Donc, on a vu en premier lieu qu'il faut avoir un contact amical avec la personne prêchée. Ce contact amical doit être donc basé sur quatre points fondamentaux. Donc, prendre l'initiative, ne jamais commencer à parler de la religion, mais plutôt parler des intérêts communs. Puis, montrer que le pêcheur donc, a besoin d'un certain service de la part de la personne prêchée. Et finalement, développer une certaine relation amicale afin de surmonter toute barrière psychologique. Deuxième étape, on a vu, c'est qu'il faut avoir une base commune liée aux points ou bien aux intérêts communs qui peuvent lier la personne prêchée avec le prêcheur. Et on a vu ça dans l'exemple du Seigneur avec la femme la Samaritaine, où le Seigneur n'a pas parlé de religion, mais il a parlé des points communs qui peuvent lier les deux, qui sont l'eau, le puits, notre père Jacob, et ainsi de suite. Et tout ça dans le but de nouer des relations amicales avec la personne qu'on va servir. Et deuxième point, de le rendre pour l'inciter à avoir plus de confiance en nous. Troisième point, c'est qu'il faut susciter l'intérêt. C'est quoi susciter l'intérêt? Donc une fois qu'on a développé cette relation amicale et qu'on a cherché les points communs entre nous, il faut montrer pourquoi ce que je vais dire ou bien ce que je vais présenter à la personne que je vais prêcher, que tout ce que je dis est intéressant ou bien pour quelle est la valeur ajoutée de ce que je vais dire. Et on va lire donc le deuxième passage de l'évangile selon saint Jean, qui part toujours de la Samaritaine. Alors Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser le puits profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ainsi, on voit dans ce passage que ce qu'a fait le Seigneur, c'est qu'il a montré à la Samaritaine pourquoi il va lui apporter quelque chose de nouveau. C'est quoi cette nouvelle chose qu'il va lui apporter? C'est qu'il va lui donner de l'eau vive, de l'eau qui ne va jamais la rendre de nouveau soif, et de l'eau donc qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, on voit que le Seigneur a attiré donc son attention en parlant de cette eau vive. Et là, je reprends juste les deux versets qui prouvent le point central de l'intérêt des paroles du Seigneur. C'est que la personne qui va boire de cette eau ne va jamais avoir donc soif. Ok? Ainsi, la Samaritaine est devenue donc très curieuse pour comprendre ce que va dire le Seigneur. Et c'est ça ce que nous aussi nous devons faire. C'est comme donc j'ai dit, après avoir développé et noué les relations amicales, chercher cette base commune, il faut poser un certain point ou bien une certaine question qui va susciter l'intérêt de notre interlocuteur. Pourquoi? Afin d'inciter sa curiosité pour apprendre plus. Parce que si on ne va pas inciter sa curiosité pour avoir plus de connaissances ou bien pour ne poser plus de questions, ça sera donc un débat clos. Donc, ça va déboucher sur, on va dire, une voie fermée qui va pas nous permettre de lui donner plus d'enseignements. Et donc, on va perdre une bonne opportunité. Évidemment, on peut profiter aussi de toutes les discussions personnelles qu'on va avoir avec les personnes qu'on prêche pour faire le lien entre ces discussions pratiques et la Bible. Comment ? Donc si on parle avec quelqu'un au sujet des familles, on peut citer l'exemple des familles dans la Bible. Si on veut parler d'un exemple d'une bonne famille ou bien d'un bon couple, on peut parler par exemple de Jacob et de Rachel. On peut parler de la Sainte Famille comme étant l'exemple d'une bonne famille. Tout ça afin donc de montrer le lien entre les enseignements, ou bien on va dire la pratique des enseignements et la Bible. Ok ? Et là, on passe à la quatrième étape. Mais avant donc de passer à la quatrième étape, on va juste récapituler la troisième étape. Donc, dans la troisième étape, on a vu qu'il faut susciter l'intérêt de notre interlocuteur. Comment susciter son intérêt ? C'est en posant une question ou bien en lui donnant une certaine information qui va inciter ou bien qui va stimuler sa curiosité. Et cela est conforme à ce qu'a fait le Seigneur avec la Samaritaine. Donc il lui a dit que j'ai une certaine eau vive. Si tu vas boire de cette eau, tu n'auras jamais soif. Et c'est du coup complètement différent de toute autre eau. On passe après à la quatrième étape. C'est après avoir incité cette personne à avoir plus d'informations, il faut nous, de notre part, préparer une discussion riche. C'est quoi une discussion riche ? Donc il faut déjà que je me prépare avec les informations dont j'ai besoin pour les transmettre à la personne que je prêche. Il faut que je prépare les arguments convaincants. Il faut que je prépare donc, on va dire, du matériel que je vais transmettre à mon interlocuteur. Ok ? Comment faire cela ? Donc il faut poser des questions centrales à travers lesquelles on pourra parler du Seigneur et du christianisme. Quels sont ces types de questions que l'on peut poser ? Donc il y a trois types de questions. Est-ce que les choses spirituelles t'intéressent ? Par exemple, qu'est-ce qu'un bon chrétien ? Est-ce que tu veux devenir un vrai chrétien ? Donc tout ça, c'est des questions centrales qui sont plus ou moins générales, mais qui vont nous permettre d'initier un certain dialogue spirituel avec cette personne. Et c'est ça ce qu'a fait le Seigneur. Donc Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Donc le lien entre ce passage et la discussion riche, c'est que on voit bien que le Seigneur, il a transmis un certain contenu à la femme en lui disant que la source d'eau que je vais te donner, c'est de l'eau vive, c'est de l'eau par laquelle tu ne vas jamais avoir soif. Et donc, ça, on va dire que c'est une question centrale qui va inciter la femme, comme on va le voir dans le passage suivant, d'échanger avec le Seigneur. C'est pour cela que, une fois qu'on a posé cette question centrale, il faut donc préparer des réponses riches en termes de contenu et en termes pour convaincre notre interlocuteur, complète, donc que ces réponses soient complètes, logiques et satisfaisantes. Et évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partager nos expériences personnelles avec cette personne. Pourquoi ? Pour montrer à cette personne que ces enseignements chrétiens ne sont pas abstraits ou bien ne sont pas théoriques, mais ils peuvent être très bien mis en pratique. C'est-à-dire, si par exemple on est en train de parler de la souffrance, on peut parler que par exemple j'ai dû supporter un certain problème dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur m'a tellement aidé que ce problème est passé de manière très pacifique ou bien très simple dans ma vie. Donc l'objectif de partager ces expériences spirituelles, c'est que cela montre que ce dont on parle n'est pas abstrait, mais peut être mis en pratique. Et le deuxième objectif de cela, c'est que ça va approfondir la relation personnelle entre mon interlocuteur et moi-même. Comment ? C'est que si je vais partager avec lui des informations personnelles, donc ça va lui donner l'impression que c'est quelqu'un qui compte pour moi. Et si c'est quelqu'un qui compte pour moi, donc je vais lui confier, on va dire, certains secrets ou bien certaines informations juste pour lui. Et ça va me permettre de lui transmettre plus de messages. Pourquoi ? Parce qu'on va devenir deux amis et non pas un professeur et un étudiant. Ok? Troisième point, c'est qu'il faut évidemment adapter la discussion en fonction de l'intérêt de notre interlocuteur. C'est-à-dire, si notre interlocuteur, ou bien la personne qu'on va prêcher, c'est un adolescent, on ne va pas lui parler des problèmes familiaux, par exemple. Ou bien on ne va pas lui parler des problèmes entre les couples. Mais évidemment, on peut lui parler des problèmes de l'adolescence, des choses liées à l'amitié, à l'amour. Donc ça, c'est si on a un adolescent. Mais si on a un jeune couple, on peut leur parler de leur future famille, des problèmes qu'ils peuvent avoir quand ils vont se marier, donc des choses qui vont susciter leur intérêt. Si on part déjà à une famille, donc évidemment on peut parler des aspects financiers, des aspects matériels, des problèmes liés à l'éducation des enfants, des problèmes entre le mari et son épouse, et ainsi de suite. Parce qu'une telle adaptation, c'est quoi son objectif? C'est qu'elle va stimuler le débat et ça va inciter mon interlocuteur à être sûr que ce que je vais lui dire, ça compte pour lui et que ça va l'intéresser. Ok? Donc ça va nous donner plus d'espace pour utiliser donc des exemples et des passages de la Bible. Donc, mais avant ça, et ça c'est la cinquième règle, et après on va donc juste récapituler le reste, c'est qu'il faut faire attention à deux choses. Première chose, c'est qu'il faut donner une dimension spirituelle à notre conversation, parce que s'il n'y a pas de dimension spirituelle, ça sera une sorte d'un dialogue tout à fait similaire à n'importe quel autre dialogue entre deux personnes normales, c'est-à-dire entre deux personnes qui parlent des problèmes de la vie. Mais si on a une dimension spirituelle à notre dialogue, ça va nous permettre d'utiliser les arguments de la Bible, de montrer dans quelle mesure les enseignements de la Bible peuvent être sont strictement liés à la vie. Et puis le deuxième point, c'est demander l'aide et la grâce du Seigneur. Et c'est ça donc le verset clé qu'il faut apprendre dans notre service. C'est quand on vous emmène, en fait c'est ce qu'a dit le Seigneur à ses disciples dans l'évangile de saint Marc. Donc il a dit, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Okay? Je me rappelle pas du verset en arabe exact, mais le sens veut dire que ولا تقلقوا في ولا تفكرون في ما ستقولون لأن الروح القدس هو الذي سيتكلم شيء من هذا القبيل. بس مش فاكر الآية بالضبط. Okay. Donc ça c'est la quatrième étape. Donc pour récapituler la quatrième étape, on a dit qu'il faut avoir une discussion riche. Quelles sont les caractéristiques d'une discussion riche? C'est que, un, il faut préparer des réponses complètes, satisfaisantes et logiques pour que notre interlocuteur ressente qu'on est en train de lui donner une bonne information, pas quelque chose à la légère. Deux, qu'il faut partager nos expériences personnelles afin d'approfondir notre relation et pour prouver que les enseignements de la Bible peuvent être mis en pratique. Trois, c'est qu'il faut adapter la discussion en fonction des besoins de notre interlocuteur, s'il est jeune, s'il est âgé, si c'est un homme, si c'est une femme, et ainsi de suite. Quatre, c'est qu'il faut donc faire attention à deux choses, donner une dimension spirituelle à notre discussion et demander l'aide et la grâce du Seigneur et du Saint-Esprit pour qu'il nous donne la sagesse de choisir les paroles et de convaincre la personne qu'on prêche. On passe après au cinquième point, qu'il ne faut pas aller donc trop loin. Et ça, ce qu'on va voir dans le troisième passage de l'histoire de la Samaritaine, c'est que Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Donc, on voit que ce qu'a fait le Seigneur avec la Samaritaine, c'est qu'il n'est pas allé trop loin. C'est-à-dire, dès le début, il lui a pas dit, « Tu es pécheresse, tu vis maintenant avec un homme, et il n'est pas ton mari. » Mais il a pris le côté positif de ses paroles pour montrer qu'elle a raison, mais que juste ce qu'elle dit est incomplet et que lui, il va le compléter. Ok ? Donc, c'est quoi ce que veut dire il ne faut pas aller trop loin. C'est plus ou moins deux points fondamentaux et après, on va détailler le reste. Le premier point, c'est qu'il ne faut jamais condamner notre interlocuteur, il ne faut pas le juger. On n'est pas là pour lui dire que tu es mauvais, que tant que tu n'as pas connu le Christ, tu ne seras pas sauvé. Mais on est là pour lui dire, pour lui transmettre tout d'abord un message d'amour et après, à travers cet amour, le convaincre cette personne de l'importance du christianisme. Parce que si on ne l'aime pas, comme on a dit tout au début, il n'y aura aucun intérêt de notre discussion. Puis deuxième point, c'est qu'il faut discuter donc avec cette personne des réalités communes. Comme on l'a vu tout au début avec la base commune avec notre interlocuteur, on va la reprendre ici pour voir ce qu'a fait le Seigneur avec la Samaritaine. Et c'est que le Seigneur, donc, il lui a pas dit que ce que tu dis est faux ou bien que tu as tort, mais il a pris, on va dire, la moitié du verre qui est rempli et il a complété le reste du verre. Donc, avec les non-croyants, il faut commencer toujours par les choses sur lesquelles on est d'accord, discuter avec eux ce qu'ils pensent de Dieu pour prendre leur point de vue. Et après, on développe sur la base de ça, comme le Seigneur a fait avec la Samaritaine. Elle a commencé par lui dire que j'ai pas de mari, et lui, il lui a dit, oui, t'as bien dit, t'as pas de mari, t'avais 5 maris, mais la personne que t'as maintenant, c'est pas ton mari. Deuxième point, c'est qu'il faut avancer graduellement. Et donc, comme le proverbe français le dit, lentement mais sûrement. Donc, il faut pas aller tout de suite, il faut pas transmettre tout ce qu'on veut dire tout d'un coup. Mais il faut aller très très lentement afin d'être sûr que tout ce qu'on dit est compris et que tout ce qu'on dit, on va dire, est digéré par notre interlocuteur. Sinon, ça n'a aucune importance. Et c'est pour cela, et ça c'est un point très important, qu'il ne faut jamais dire que c'est ma dernière opportunité. C'est-à-dire, il ne faut pas que chacun de nous pense que si j'arrive pas à convaincre cette personne aujourd'hui, c'est la fin du monde, je ne pourrai plus la convaincre de nouveau, mais toujours il faut avoir en tête que la grâce de Dieu est capable de tout faire. Donc même si j'arrive pas à convaincre cette personne aujourd'hui, je pourrai compléter ça plus tard, je pourrai compléter ça demain, je pourrai compléter ça quelqu'un d'autre pourra compléter ça. Donc il faut toujours avoir, on va dire, l'espoir et l'espérance que c'est pas la dernière opportunité, c'est pas ma dernière chance. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut avancer sûrement pour que la personne connaisse bien le Seigneur et le christianisme. Donc troisièmement, comme on l'a déjà dit, ne jamais dire c'est faux ou bien que tu as tort, ne jamais condamner ou juger les gens, on n'est pas là pour les juger. Et cinquième point, et là c'est très important pour notre service et pour pas uniquement pour notre service, mais pour n'importe quelle personne, c'est que quand on ne sait pas, il faut l'admettre. Donc, vaut mieux dire que je ne sais pas ça, ou bien que j'ai pas une idée précise pour te répondre maintenant, que dire une réponse fausse ou transmettre un message qui n'est pas correct. Par exemple, si on va discuter de si la Bible a évolué ou bien a changé au cours du temps, si j'ai pas les arguments historiques, les arguments bien fondés pour prouver que la Bible est restée la même depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vaut mieux dire à la personne, j'ai pas de réponse, on va dire complète pour le moment, mais je vais vérifier cela et puis je reviens vers toi, que transmettre un message très flou ou bien qui va aller à un tel point que c'est un message qui n'est pas correct. Et donc ça, c'est le dernier point. Notre conversation doit être adaptée en fonction de notre interlocuteur, puisqu'on a deux types de non-croyants. Il y a des non-croyants qui connaissent le Christ et qui ne réagissent pas, c'est-à-dire ils connaissent Jésus, ils savent que cette personne s'est incarnée, que les chrétiens croient en cette personne et qu'elle est Dieu, que le Seigneur Jésus est Dieu, mais qu'ils ne réagissent pas. Mais il y a d'autres non-croyants qui n'ont même pas d'idée concernant le christianisme. Ou bien une idée concernant le Seigneur Jésus. C'est pour cela que notre discussion va complètement changer si on parle à un non-croyant du deuxième type que du premier type. Pourquoi ? Parce qu'un deuxième, le deuxième type des non-croyants, ils sont des ignorants. Ils ne savent pas. Donc ils ont besoin d'une information. Mais les autres, qui sont passifs, qui ne réagissent pas à la connaissance du Seigneur, on doit plutôt les convaincre. Pas leur transmettre une information. Évidemment, on va leur transmettre une information. Mais ça sera une information à travers un dialogue et un échange et dans le but de convaincre cette personne. Mais une personne ignorante, c'est une personne qui ne connaît pas, qui a besoin d'une information. Donc, ça sera plutôt un dialogue, pas un dialogue, non plus un monologue, mais ça sera plutôt quelque chose que moi, je vais transmettre. De ma part, pourquoi ? Parce que je vais transformer des informations substantielles, de la substance que je vais transmettre. Donc ça, c'est la différence entre les deux en termes de d'informations que je vais donner. Mais ceci n'empêche que les deux, aussi bien les passifs que les ignorants, ils ont besoin de tous les éléments précédents dont on a parlé. Donc ils ont besoin de notre amour, de notre amitié, de notre patience, afin de transmettre lentement et sûrement le message. Ils ont besoin de notre attention pour montrer dans quelle mesure on accorde à cette personne tant d'importance. Et donc le dernier point qu'on a déjà cité, c'est qu'il faut adapter notre discussion en fonction des besoins de chacun d'eux. Donc si c'est quelqu'un passif, il faut le rendre actif, il faut le convaincre pour qu'il puisse réagir aux enseignements chrétiens. Mais si c'est quelqu'un d'ignorant, il faut lui donner plus d'informations pour qu'il assimile le christianisme ainsi que ses enseignements. Ok ? Sixième point, donc après avoir développé cette relation amicale, chercher la base commune avec notre interlocuteur, susciter son intérêt pour qu'il écoute mes paroles, puis développer avec lui une discussion riche, pleine d'informations. Et après cette discussion riche, on n'est pas allé trop loin avec lui, c'est-à-dire on lui donne l'information de manière graduelle et adaptative. Il faut terminer notre discussion, ça c'est pas la fin, mais la partie juste avant la fin, c'est dégager les points fondamentaux, c'est-à-dire, comme on le dit en anglais, le takeaway messages. Donc les points fondamentaux dont on a besoin que notre interlocuteur se rappelle et apprenne par cœur ces deux informations, il faut les dégager à la fin de notre conversation. C'est-à-dire, si aujourd'hui on est en train de parler de l'incarnation du Seigneur, le message central de l'incarnation, c'est que Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. En une phrase, résumer toute notre discussion pour que la personne non croyante se rappelle de ce message central, simple et unique. Ok ? On va terminer donc avec le dernier passage de l'histoire de la Samaritaine. Donc, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc dans ce passage, on peut déceler deux points fondamentaux. Le premier point, c'est que le Seigneur a changé complètement la conversation. La conversation, elle a commencé au début avec les points de divergence entre les Juifs et les Samaritains. C'est que elle lui a dit, vous vous adorerez au sud, nous adorerons au nord. Vous êtes le royaume de Juda, nous on est le royaume d'Israël. Mais le Seigneur, il a changé complètement d'air en disant à la Samaritaine, peu importe le lieu où on va prêcher, où on va adorer, mais ce qui compte, c'est qu'on adore avec notre cœur et avec notre esprit. Donc si vous voulez adorer au nord, vous pouvez adorer. Si nous adorons au sud, on peut adorer au sud. Mais ce qui compte, enfin, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle on va adorer. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Donc il a transformé l'air de la conversation complètement, d'une conversation qui allait déboucher sur des divergences, vers une discussion qui allait déboucher sur un point de convergence entre les deux. C'est que peu importe le lieu où vous allez adorer, mais ce qui compte enfin, c'est quoi? C'est qu'on adore avec l'esprit et le cœur. Donc le Seigneur a modifié la question de la Samaritaine. Ce n'est pas où adorer, mais plutôt comment adorer. Juste pour vous donner d'autres exemples, quelle autre question on peut changer? Par exemple, on peut changer les questions. Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Ça, c'est une question très fréquente. Par exemple, on peut changer cette question comment? En disant à la personne, est-ce que vous avez lu la Bible? Ou bien, quels sont les types d'erreurs que vous avez découvertes dans la Bible? Afin de répondre avec des arguments à cette question. Donc, c'est ça qu'a fait le Seigneur avec la Samaritaine. Il a changé la question. Au lieu de mettre l'accent sur les différences entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, et qui adore quoi, ou bien qui adore Dieu, qui sont les vrais adorateurs, il a posé une question beaucoup plus importante qui est liée à la manière avec laquelle on adore Dieu. Donc ça, c'est le premier type de question qu'on peut changer. Deuxième type de question, c'est qu'il y a parfois des non-croyants qui disent, mais il y a des hypocrites à l'église, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent pour adorer le Seigneur, mais après, dès qu'ils sortent de l'église, ils peuvent insulter, ils ne sont pas justes avec tout le monde, ils ne se comportent pas conformément aux enseignements de la Bible. Et là, on peut aussi modifier la question en disant, même s'il y en a quelques-uns, c'est pas tout le monde, ça c'est un, et deux, même s'il y a quelques-uns et qui vous dérangent, l'essentiel pour nous, c'est le Christ. Ok, donc ça c'est le type de question qu'on peut détourner pour montrer qu'il y a toujours quelque chose de plus important qui compte. Ok, finalement, et ça c'est pour terminer, il faut conclure en rendant la réalité explicite. C'est que si vous rappelez, dans le passage de la Samaritaine, le Seigneur a terminé sa conversation avec la Samaritaine en lui disant, c'est que c'est moi qui suis le Seigneur ou bien le Messie qui te parle. Donc si on lit le dernier verset dans ce slide, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc il lui a dit de manière directe, très explicite, que je suis Dieu, le Seigneur, le Messie que vous attendez. Ok? C'est pour cela qu'à la fin de notre discussion, il faut à la fin dire de manière directe et explicite l'idée fondamentale, principale qu'on veut, ou bien le message qu'on veut délivrer à notre interlocuteur. Donc, on va récapituler avant de conclure. Donc, il y a 7 étapes pour prêcher. Première étape, c'est qu'il faut nouer des relations amicales avec notre interlocuteur. Comment ? Il ne faut jamais commencer à parler de la religion, mais plutôt parler des intérêts communs. Deux, c'est qu'il faut prendre l'initiative à l'égard de la personne. Trois, c'est qu'il faut développer cette relation psychologique pour surmonter les barrières psychologiques de la personne. Puis deuxième point, c'est qu'il faut avoir une base commune en cherchant les intérêts communs entre notre interlocuteur et nous-mêmes, c'est-à-dire le Seigneur, il a parlé des points communs comme notre père Jacob, puisque aussi bien les Juifs que les Samaritains reconnaissent Jacob. Puis, il faut être sensible aux besoins de la personne et demander toujours la grâce de Dieu, et ça on l'a vu plus ou moins dans toutes les étapes. Évidemment, il faut être un très bon auditeur, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de parler, et surtout de parler d'eux-mêmes, et ça va les rendre beaucoup plus à l'aise avec nous. Il faut être intelligent en posant des questions. Troisième étape, il faut susciter l'intérêt. Comment susciter l'intérêt ? Donc en montrant que ce qu'on va dire va apporter quelque chose de nouveau à cette personne, qu'il y aura une certaine valeur ajoutée qu'on va transmettre à notre interlocuteur. Pourquoi ? Afin de stimuler la curiosité de notre interlocuteur. Puis, il faut faire toujours le lien entre l'enseignement de la Bible et la vie pratique pour montrer que tout cela peut être mis en pratique. Et ça, on va le voir plus tard dans la discussion riche. Quelles sont les caractéristiques d'une discussion riche ? C'est qu'il faut qu'elle soit donc complète, logique et satisfaisante. Deux, il faut qu'elle soit liée à nos expériences personnelles, afin d'approfondir la relation avec la personne qu'on prêche, et afin de lui montrer que les enseignements de la Bible ne sont pas abstraits, mais peuvent être concrètes et mises en pratique. Troisième caractéristique, c'est qu'il faut toujours faire attention à adapter le contenu de la discussion aux besoins de la personne qu'on prêche, en fonction donc de son âge, de son genre, de ses intérêts. Et quatre, c'est qu'il faut prouver donc dans quelle mesure il faut donc faire attention à deux choses, c'est qu'il faut donner donc la dimension spirituelle à nos paroles pour que ça soit pas une discussion sociale, et finalement demander l'aide et la grâce du Seigneur. Cinquième point, il faut pas aller trop loin, mais il faut aller de manière très graduelle, lentement mais sûrement, afin de convaincre la personne et d'être sûr que nos paroles sont bien transmises. Donc ça c'est un. Deux, il ne faut jamais condamner ou juger les autres, mais il faut plus leur transmettre un message d'amour et après essayer de leur présenter les arguments, soit mentaux, soit qui relèvent de la foi. Et finalement, il ne faut jamais répondre par « c'est faux, c'est tu as tort, c'est pas correct » et ainsi de suite. Mais il faut qu'on fasse comme ce qu'a fait le Seigneur avec la Samaritaine, il faut transformer la réponse, prendre la moitié de la réponse et la compléter. C'est vrai que tu n'as pas de mari, mais tu avais des maris et la personne avec laquelle tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc il n'a pas menti, le Seigneur n'a pas menti, mais il a complété juste ce qu'a dit la Samaritaine. Puis, les deux types de non-croyants, donc il y a des ignorants qui ont besoin d'une information, mais des gens passifs qui ont besoin donc qu'on puisse les convaincre pour qu'ils croient en Dieu. Sixième étape, c'est qu'il faut dégager les points essentiels. Donc il faut résumer tout ce qu'on a dit en deux, trois idées principales qu'on va expliciter en une phrase ou bien une seule partie qu'il faut retenir. Comme ce qu'a fait le Seigneur donc l'essentiel de sa discussion ce n'était pas où adorer au nord ou au sud, mais l'essentiel c'est comment adorer avec le cœur et avec l'esprit. Et finalement, c'est qu'il faut transmettre le message explicite et direct, comme ce qu'a fait le Seigneur, c'est moi le Messie et c'est moi Dieu. Pour conclure, donc il y a le point commun entre tout ça, ou bien on va dire la base de tout ça, c'est qu'il faut avoir de l'amour vis-à-vis des personnes qu'on va prêcher. Parce que sans amour, Ça n'a aucun sens de servir. Et comme ce qu'a dit Saint Paul dans son hymne à l'amour, dans l'épître, dans sa première épître aux Corinthiens, il dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou bien l'amour, je suis rien. » C'est-à-dire même si je suis très logique dans mes paroles, si je peux convaincre mais j'aime pas, ça n'a aucun sens de servir ou de prêcher. Puis, il faut se rappeler aussi qu'on n'est que des outils entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur, il est capable de transformer les pierres en des fils d'Abraham. Nous, on n'est que des outils entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser afin de délivrer son message. Et donc là, c'est la dernière équation avec laquelle on va terminer, c'est que mon effort plus la grâce de Dieu, c'est un service réussi. Donc, ce que je fais de ma part, avec la grâce de Dieu, ça peut déboucher sur quelque chose de concret. Mais si moi je compte sur mes capacités sans la grâce du Seigneur, ça sera jamais un service réussi. Ok. Donc ça c'est juste les références. Donc évidemment l'évangile selon Saint Jean, puisque c'est l'extrait de la Samaritaine, et après le cours donc d'Abuna Daoud en anglais How to Witness. Voilà. Questions? Commentaires? Ok, merci et gloire à Dieu éternellement.